This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter, le 18-20.
Le 18-20, ce soir au Pérou, à deux jours d'une présidentielle ultra féminine avec deux candidates au fauteuil suprême, Veronica Mendoza à gauche et surtout Keiko Fujimori, fille de à droite. Nous serons également en direct de Rome et de Washington pour la revue de presse hebdomadaire des correspondants de France Inter. À 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger sur le Mexique qui a dit oui aujourd'hui au mariage gay. Mais tout de suite, la philosophe belge que la presse internationale considère, s'il vous plaît, comme l'inspiratrice de la nouvelle gauche radicale.
Michaël Thébault, un jour dans le monde.
Il y a 31 ans, elle avait déjà secoué le cocotier de la philosophie politique avec un remarquable essai intitulé « Hégémonie et stratégie socialiste » coécrit avec Ernesto Laclos. L'objectif était de repenser, réélaborer un authentique projet socialiste qui soit une réponse à la crise de la pensée de gauche et avec pour postulat presque un leitmotiv qu'il est toujours possible de changer les choses politiquement. Eh bien, trois décennies plus tard, des indignés à Podemos, mais pas seulement, on le verra. Force est de constater que ces thèses ont infusé la pensée politique. Bonsoir Chantal Mouffe.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct sur France Inter. Alors vous signez aujourd'hui chez Albin Michel l'illusion du consensus, réflexion sur la et le politique, la démocratie bien sûr toujours, et le libéralisme, on va y venir en détail. Mais d'abord, Chantal Mouffe, permettez-moi une question plus personnelle, question à la citoyenne belge que vous êtes. 17 jours aujourd'hui, après les attentats de Bruxelles, elle va comment, la Belgique ?
Écoutez, je ne suis pas la personne vraiment indiquée pour répondre à ça, parce que j'ai quitté la Belgique il y a 40 ans au moins, et j'ai vécu dans beaucoup d'endroits. Je vis depuis les années 70 en Grande-Bretagne, je suis professeur à l'université là-bas. Alors j'ai des rapports, je connais en réalité plus la situation politique en France qu'en Belgique, mais dernièrement j'y suis retournée assez régulièrement. Les problèmes de la Belgique, je crois que ça a à voir un peu avec les difficultés qu'ils ont eues récemment à propos du terrorisme, c'est la fracture maintenant depuis qu'ils ont décidé de fédéraliser la Belgique. En fait, il y a, je sais pas combien de gouvernements, pas une bonne collaboration entre la communauté flamande et la communauté francophone. Donc, il se passe pas les informations. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui a joué dans les problèmes. Alors, tout ça, finalement, peut-être avoir un aspect positif, parce que des amis là-bas me disaient récemment, en fait, on est en train de se rendre, des amis qui sont, qu'on appelle des vrais Belges, ceux qui veulent maintenir l'unité de la Belgique, tant du côté flamand que du côté wallon d'ailleurs, ils disent, bon, maintenant on est en train tout de même de se rendre compte que on peut pas continuer, parce que le gouvernement, donc le NVA, qui est le parti séparatiste, veut encore plus de séparation. Il dit, mais on est en train de prendre conscience que c'est très dangereux cette séparation, et que finalement, peut-être au lieu de encore faire plus de séparation, il serait temps un peu de centraliser, de retrouver une façon d'administrer au niveau belge. Donc disons, ça va mal, mais il y a de l'espoir.
Alors, en tant que philosophe, cette fois, Chantal Mouffe, on va dire ça comme ça, théoricienne critique de la démocratie moderne, comment réagissez-vous face à de telles attaques terroristes contre les principes même de nos démocraties ?
Ah là là, ça c'est un problème assez compliqué, on n'a pas tellement le temps, mais moi je veux dire que contrairement à ce que on entend ici en France de la part de certaines personnes, il est très important d'essayer de comprendre et pas simplement et comprendre, ça ne veut pas dire accepter. Mais si on veut lutter contre ce genre de phénomène, il faut essayer de comprendre quelle est justement la motivation, qu'est-ce qui pousse des jeunes Français, des jeunes Belges à s'engager comme djihadistes, ou même à faire les atrocités qu'ils font dans leur pays. Je crois que là, il y a une réflexion vraiment importante à faire, et que c'est pas en disant ils veulent mettre en question nos valeurs, c'est quelque chose. Il faut essayer de comprendre comment se forme ce genre d'affect vraiment très très dangereux qui transforme une colère qui est dans pas mal de cas assez légitimes, parce que c'est pas
légitime
l'explication.
Légitime en quoi ?
Mais dans la mesure où, et attention, je ne dis pas que c'est valide pour tous, mais il y a tout de même parmi ces jeunes, certains jeunes qui sont dans des situations où ils subissent des traitements, une situation qui provoque chez eux de la colère. Donc, je crois qu'il faut voir que dans certains cas, j'insiste, dans certains cas, il y a une colère qui est légitime, mais le problème, c'est que cette colère, comme elle ne trouve pas, alors ça se rejoint à certains thèmes de mon livre, la possibilité de s'exprimer, disons, au niveau politique, elle se transforme en haine. Donc là, en haine qui va conduire à traiter les autres comme étant des ennemis absolus qu'il faut détruire. Donc il y a, je crois, là quelque chose qui est très important à essayer de comprendre, et pour moi aussi c'est quelque chose qui est central dans ma réflexion, c'est le rôle des affects en politique. Et je crois qu'en général, certainement la gauche, mais je dirais en général tous ceux qui défendent nos valeurs, ils ne sont pas très conscients de l'importance des affects.
Mais dans votre dernier livre, hein, L'illusion du consensus, vous montrez parfaitement bien justement que ce joli rêve d'une démocratie sans frontières, cosmopolite, vient se briser, se fracasser sur deux murs. D'un côté, on a la montée des populismes et de l'autre, le terrorisme international.
Oui, mais justement, dans le livre, c'est un peu prétentieux de dire j'explique, mais j'essaye de présenter l'hypothèse que si on a justement ce genre de réaction violente, que des conflits qui s'expressent sous la forme de l'antagonisme, c'est-à-dire traiter l'opposant comme un ennemi qu'il faut détruire, c'est parce que n'existe pas au niveau national ou au niveau européen ou aussi au niveau international les possibilités, les canaux qui vont permettre, lorsqu'il y a un dissensus, lorsqu'il y a un désaccord, présenter ce désaccord comme étant ce que j'appelle un désaccord de type agonistique. Donc, un désaccord dans lequel on trouve que l'opposant n'est pas un ennemi à détruire, mais c'est un adversaire avec lequel on va évidemment avoir une confrontation qui va accepter certaines procédures
On ne détruit pas l'adversaire.
On lutte contre l'adversaire, mais on ne le détruit pas. Là, je crois qu'il y avait, par exemple, Marcel Mauss avait une expression qui était tout à fait adéquate en parlant de la démocratie. Ce dont il s'agit, c'est de permettre de s'opposer sans se massacrer. Là, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment central, d'actualité.
Le deuxième mur, si vous m'autorisez cette expression de mur sur lequel le rêve démocratique se fracasse, c'est la montée des populismes de droite, dites-vous. Justement, quand on voit la situation en Pologne, en Hongrie, mais ailleurs également, vous vous dites quoi ?
Eh bien, prenons justement le cas de la Pologne. Parce qu'il est intéressant de voir que s'il y a, et évidemment c'est le cas aussi pour la France, bien entendu, le succès des partis populistes de droite vient du fait qu'il y a toute une série de secteurs populaires, particulièrement, disons, en général, les classes moins favorisées, les ouvriers, qui ont énormément souffert du développement du néolibéralisme et qui trouvent que, et avec raison d'ailleurs, les partis socialistes auraient dû représenter leurs intérêts les ont abandonnés. Et alors, ils sont justement un terrain propice pour être attirés par les partis populistes de droite qui se présentent comme étant justement ceux qui vont défendre l'État, les classes populaires. Dans le cas de la Pologne, par exemple, il faut voir que c'est le parti donc qui est maintenant au pouvoir, qui est clairement un parti populiste de droite, c'est un parti qui a réussi à se présenter comme étant un parti qui va défendre les intérêts des classes populaires qui ont été, il faut le reconnaître, très malmenées.
Mais l'opposition justement polonaise, en appelant à la mobilisation presque chaque week-end depuis presque 6 mois maintenant, essaie de montrer ce mensonge.
Oui, mais vous savez, la question, je ne sais pas si c'est un mensonge, parce que justement, les classes populaires.
Mensonge dans la volonté de représenter les classes populaires.
Oui, mais enfin, le parti au pouvoir, par exemple, il y a des mesures qui sont des mesures, qu'on pourrait appeler de gauche. Ils sont nettement, ils veulent augmenter les impôts, ils veulent défendre toute une série de services qui ont à voir avec. C'est une réaction contre le gouvernement antérieur, qui est un mouvement libéral, mais très fortement influencé par défendre une politique néolibérale. Alors, lorsque nous avons des gouvernements, et c'est le cas ici en France, qui font une politique libérale et qui ne s'inquiètent pas des résultats que ça a sur les classes populaires, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des partis qui viennent et qui prétendent qu'ils vont défendre les intérêts des classes populaires. Heureusement, en Pologne, il y a aussi d'ailleurs un nouveau mouvement, qui s'appelle Razem, ça veut dire ensemble, qui est un mouvement qui veut lutter contre, qui est un mouvement inspiré par exemple du mouvement Podemos en Espagne.
On va y venir à Podemos, oui. Alors justement, puisque vous en parlez, je reprends votre postulat de 1985, Chantal Mouffe, dont s'inspire largement la gauche radicale espagnole, Podemos en tête, il est toujours possible de changer les choses politiquement et d'intervenir sur les relations de pouvoir afin, disiez-vous, de les transformer. Vous trouvez que Podemos intervient et surtout transforme les relations de pouvoir ?
Écoutez, on va voir ce qui se passe.
Là, en Espagne, on a un gouvernement aux abonnés absents.
On n'a pas de gouvernement parce qu'ils ont... Podemos, si on considère que c'est un mouvement qui existe uniquement depuis 2 ans, ils ont réussi à avoir 20%, pratiquement 21% aux élections, dernières élections. Ils sont arrivés à uniquement 300 000 votes de différence par rapport au Parti socialiste. Ouais. Bon, ils ont un résultat magnifique. Mais ce qui se passe, c'est que ils ne peuvent pas, enfin, aujourd'hui, il semblerait, je crois que ce qui va se passer en Espagne, c'est qu'ils vont avoir l'obligation d'avoir de nouvelles élections, parce qu'il y aurait la possibilité, justement, d'avoir un gouvernement de gauche, entre une alliance entre le Parti socialiste et Podemos.
Et il y a où le blocage, alors?
Le blocage vient des socialistes, particulièrement, pas spécialement du candidat, mais de ce qu'on appelle les barons du Parti socialiste, par exemple Felipe González, qui eux ne veulent d'aucune manière qu'une alliance avec Podemos. Alors que c'est la seule façon qui leur permettrait d'avoir le numéro de vote suffisant pour l'investiture. Alors, ils ont forcé Pedro Sánchez à faire une alliance avec le parti de droite, Ciudadanos. Et là, ils ne parviennent pas, évidemment. Ils n'ont pas suffisamment de votes pour être élus. Mais, évidemment, Podemos a été mis de côté parce que le Parti socialiste trouve qu'ils sont trop radicaux. Ils mettraient en question, bien entendu. Et ça, c'est l'avantage. Enfin, ils veulent montrer que il y a une alternative aux politiques néolibérales qui ont été mises en place à la fois par le Parti populaire et par le Parti socialiste. Mais le Parti socialiste n'accepte pas une telle alliance. Donc évidemment, on ne peut pas dire Podemos ne fait rien. Podemos est exclu du pouvoir par les socialistes qui ne veulent pas d'une alliance.
On quitte Podemos. Tout au long de votre ouvrage, il y a cette critique féroce de ce que vous appelez la démocratie délibérative, c'est-à-dire...
Bon, ce n'est pas une critique féroce. Là, c'est...
Bon, alors j'exagère un peu,
c'est un peu exagéré. Non, en plus, c'est une critique simplement...
Constructive.
C'est-à-dire, bon, mais ça part des principes de... j'essaie de montrer... mais pas uniquement de la démocratie délibérative, d'ailleurs, de la démocratie aussi agrégative. Parce que, finalement, quand on pense à... Bon, quel est l'objectif des institutions de la démocratie libérale? Bon, il y en a qui... comment faut-il concevoir ça? Bon, il y a un modèle qui dit le modèle agrégatif. Bon, il y a des individus qui ont des intérêts différents. Ils vont voter pour les partis en fonction des partis qui défendent leurs intérêts. Et ce qu'il faut faire, c'est agréger tous ces intérêts pour arriver à faire une politique. Bon, c'est une conception qui est très instrumentaliste de la politique. En face de ça, il y a justement ce modèle de démocratie délibérative que je trouve, si on les compare aux agrégatifs...
Que vous trouvez où aujourd'hui dans le monde ?
Oh, ben écoutez, non. Ici, je parle au niveau théorique. Hein, je m'adresse particulièrement à à l'œuvre de John Rawls aux États-Unis ou de Jürgen Habermas en Allemagne. Parce qu'il n'y a pas, non, je ne pourrais pas donner un exemple.
On est d'accord, il n'y a pas un modèle, non, y a une pas, application
non,
concrète.
Non, il n'y a pas, ça, ce sont des théories qui évidemment, par exemple, on essaye de les mettre en place et ils peuvent, il y a parfois des théoriciens qui sont des conseillers de politiciens, par exemple, il y a certains théoriciens de démocratie délibérative ont essayé d'influencer la politique de Zapatero en Espagne. Donc il y a certains rapports, mais il n'y a pas un pays où on pourrait dire c'est un pays qui a mis en place la démocratie délibérative. Mais je suis critique de l'idée même de démocratie délibérative à condition qu'on considère que à travers la délibération on va pouvoir arriver à un consensus inclusif rationnel. Je ne suis pas contre la délibération, mais la délibération à condition que cette délibération soit de type que j'appelle agonistique, c'est-à-dire une délibération dans laquelle il y a plusieurs enjeux entre lesquels on peut décider. Parce que si on n'a pas la possibilité justement de choisir, de délibérer à propos de différentes politiques, mais vraiment des différentes politiques, pas des petites différences, hein, alors à ce moment-là, bon, ce n'est pas une véritable délibération.
Chantal Mouffe, je suis sincèrement navré, mais le temps file à une vitesse folle à vous écouter. On est obligé d'en rester là. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, absolument passionnant, pour comprendre aussi toute l'actualité, Illusion du consensus chez Albert Michel. Dans un instant, on partira au Pérou, mais d'abord, un hymne, ou presque, Eric Clapton, I Shot the Sheriff.
I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. All around in my home trying to track me down. They say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I say I shot the sheriff, I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, and they say it is a capital offense. Sheriff John Brown always hated me for what I don't know, and every time that I I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out down there. All of a sudden I see sheriff. So I shot him down. I said.
Eric Clapton, I Shot the Sheriff.
12 del día, 9 minutos en Brasil.
La revue de presse des correspondants de France Inter.
Londres, Franck Medvon, France Inter.
Bonsoir Cyril Sauvageau en direct de Berlin.
Bonsoir.
Et l'on poursuit notre tour du monde des envoyés spéciaux.
Washington, Frédéric Carbon, France Inter.
Et avant de partir au Pérou, comme annoncé, place donc à la revue de presse de nos correspondants à nous. Que retenir de l'actualité de la semaine chez eux? Et on commence par les États-Unis, Washington. Bonsoir Frédéric Carbone.
Bonsoir Michael Thébault, bonsoir à tous.
Alors la presse américaine revient elle aussi, évidemment, sur le scandale planétaire des Panama Papers. Alors, un peu moins c'est vrai qu'ici en France, mais avec quelques très bonnes enquêtes, hein, Frédéric.
Et l'explication, c'est que les grands quotidiens américains n'ont pas été associés à cette enquête. Ils préfèrent souvent travailler seuls, donc à part USA Today, qui en a fait sa une en début de semaine, grande discrétion ailleurs, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal ont relayé modestement les révélations du consortium international. Après, effectivement, ces journaux ont mené leurs propres investigations, et le New York Times nous amène ainsi dans les bureaux du cabinet Mossack Fonseca, à Panama. L'un, Jürgen Mossack, est le fils d'un ancien Waffen-SS réfugié au Panama dans les années 60. L'autre, Ramon Fonseca, s'est battu contre la dictature de Noriega avant de devenir un proche conseiller de l'actuel président. Il dit qu'après la tempête, le ciel redeviendra bleu et le seul crime qui restera sera le piratage des fichiers. Un officiel du parti est moins optimiste. Quand on voit, explique-t-il, que ce cabinet rend des services à tous les dirigeants qui violent les droits de l'homme, c'est réellement répugnant. Le Panama épinglé, donc, mais le New York Times cite aussi un expert fiscal qui considère qu'il faudrait regarder comment les choses se passent aux États-Unis. Pas plus de transparence. Panama, selon Matt Gardner, n'est pas la vraie histoire. Il reste donc d'autres fuites, d'autres documents à obtenir, d'autres enquêtes à mener.
Et toujours à la une, bien sûr, la campagne présidentielle américaine avec Ted Cruz, hein, qui pour la première fois a les honneurs de Time Magazine.
Le vent politique tourne peut-être ces jours-ci et cette couverture de Time Magazine en est l'illustration. Quatre fois ces derniers mois, on y a vu Donald Trump, avec notamment ce titre, c'est un mouvement, une très belle photo noir et blanc qu'il brandit régulièrement en meeting. Aujourd'hui, c'est donc Ted Cruz, avec un point d'interrogation. Quand même, peut-on aimer cet homme? Parce que l'hebdomadaire rappelle que pendant sa pourtant jeune carrière au Sénat, il s'est fait détester par tout le monde ou presque, qu'il préfère l'obstruction au compromis, pas franchement le profil de l'unificateur du Parti républicain tel que Cruz se présente désormais. Time Magazine résume ainsi la situation. De nombreuses personnes qui le critiquent ouvertement ont simplement choisi Cruz pour stopper Trump en espérant rebattre les cartes à la convention de Cleveland au mois de juillet.
Et pour finir Frédéric, le reportage à ne surtout pas rater hein, ce week-end dans la presse US.
Absolument, un de ces reportages au long cours, idéal pour lire pendant un week-end où l'on a un peu de temps, c'est justement dans la livraison de cette fin de semaine du New York Times Magazine, mais on peut déjà y accéder sur le site. Le titre, Les Nouveaux Européens, et l'auteur James Angelos a en fait posé ses valises depuis l'automne dernier dans une petite ville de Bavière, Eisenach, 1300 habitants et 200 réfugiés syriens qui sont accueillis dans un monastère abandonné par des religieuses. Au-delà de ces parcours d'errance, des tensions avec la population locale déjà souvent racontées, ce qui ressort, c'est bien que cette crise des réfugiés impose à l'Allemagne une réflexion profonde sur son identité. Comment cette nation basée sur le droit du sang devient un pays multiethnique, un guide de bonne conduite auprès des Allemands et d'ailleurs distribué aux migrants? Le pays, écrit James Angelos, sera-t-il capable de faire face à ce défi ou bien succombera-t-il à la peur, au nationalisme? C'est bien ça qui se joue dans ces communautés où arrivent les réfugiés parce qu'il y a des bâtiments disponibles des réfugiés qu'Angela Merkel a choisi d'accueillir.
Frédéric Carbone, correspondant de France Inter aux États-Unis. Merci Frédéric. De Washington à Rome, où nous attend maintenant Mathilde Imberti. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors l'actualité italienne marquée d'abord, elle aussi, par les Panama Papers.
Et oui, en Italie, c'est l'hebdomadaire L'Espresso qui mène l'enquête. Le premier hebdomadaire italien est membre du consortium international des journalistes d'investigation qui épluche les quelques 11 millions de documents du cabinet d'avocats Mossack Fonseca. Alors, L'Espresso liste dans son édition du jour les 100 premiers noms sur les 800 Italiens qui auraient placé leur argent dans des sociétés offshore. Dans cette liste, le président d'Alitalia, Luca di Montezemolo, l'ex-pilote automobile Jarno Trulli, mais aussi une présentatrice de télé très connue en Italie. Et L'Espresso publie la carte mondiale des paradis fiscaux préférés des Italiens. Les Seychelles arrivent en tête et de loin.
Et le gouvernement italien malmené en ce moment, hein, Mathilde, mais pas à cause des Panama Papers.
Alors non, c'est un autre scandale 100% italien qui secoue le gouvernement de Matteo Renzi. Tout est parti le week-end dernier de la démission de Federica Guidi, la ministre de l'Industrie, suite à des interceptions téléphoniques. Elle est soupçonnée de favoriser favoritisme envers son compagnon, qui est entrepreneur pétrolier. Dans une conversation avec lui, la ministre se félicite du vote d'un amendement qui débloque les affaires du groupe Total dans la péninsule. Plus précisément, cet amendement permet à Total de transporter le pétrole extrait d'un forage du sud de l'Italie. Or, le compagnon de la ministre est sous-traitant sur ce projet. Et c'est un projet juteux, souligne la Stampa. Ce gisement aurait un rendement de 50 000 barils par jour, autant qu'aux grandes heures du Brent en mer du Nord. Alors, cette affaire en apparence embarrassante pour les gouvernements ne fait pas trembler Matteo Renzi, qui assure, face caméra, que cet amendement, il l'a souhaité, lui, pour créer de l'emploi dans le pays. Alors, certes, pour l'éditorialiste de La Repubblica, Stefano Folli, il y a trop peu pour déclencher une crise politique, mais suffisamment pour inspirer à juste titre Beppe Grillo, le leader du mouvement 5 étoiles, premier parti d'opposition en Italie, qui assure que le gouvernement a les mains sales, les mains salies par le pétrole.
Ouais, on va en reparler, hein, certainement. Et en Italie, cette semaine, la presse a eu droit à la surprise du chef.
Oui, la surprise du chef de l'Église catholique, il nous aura tout fait. Soupirent les journalistes qui suivent le pape François, car le pape a décidé de se rendre sur l'île de Lesbos. Première surprise, île grecque, et quand ? Eh bien, dès la semaine prochaine. Jamais dans l'histoire des papes, souligne le vaticaniste du Corriere della Sera, on a vu un voyage à l'étranger s'organiser dans un délai aussi court. L'annonce est parue mardi pour un voyage qui aura lieu samedi prochain. À Lesbos, le pape veut saluer les réfugiés et réclamer une solution européenne au drame des migrants. Le quotidien du Vatican, l'Osservatore Romano, a relayé d'ailleurs cette semaine les critiques très sévères des organisations catholiques qui œuvrent pour les migrants. Et sur Radio Vatican, le cardinal chargé des questions migratoires à la Curie a clairement dénoncé l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, le cardinal Velio affirmant « les migrants sont des êtres humains et non des marchandises ».
Mathilde Imberti en direct de Rome. Merci. Ailleurs dans le monde, bonsoir Olivier Poujade.
Bonsoir Michael.
Alors, premier tour de l'élection présidentielle au Pérou ce week-end avec le retour pressenti du clan Fujimori.
Et cette fois-ci, dans la famille Fujimori, Michael, je demande la fille Keiko, fille d'Alberto Fujimori, ancien chef de l'État péruvien, aujourd'hui en prison pour crimes contre l'humanité, pour des tortures abominables comme ces campagnes de stérilisation forcée pour contrôler les naissances dans les années 90. Alberto Fujimori également classé 7e sur la liste des dirigeants les plus corrompus de l'histoire. Ses frères et ses sœurs ont fui le pays pour échapper à la justice, poursuivis notamment pour association de malfaiteurs. Et pourtant, sa fille Keiko est aujourd'hui candidate et plutôt bien placée dans les sondages. Bonsoir Eric Sanson.
Bonsoir Olivier.
Correspondant pour France Inter à Lima, Keiko Fujimori qui jusque dans ses derniers meetings, Eric, hein, tente de se démarquer en fait de l'image de sa famille et surtout de celle de son père.
Oui, c'est la variante péruvienne et oedipienne du « lui, c'est lui » et « moi, c'est moi ». Keiko Fujimori devrait obtenir un gros tiers des suffrages. C'est suffisant pour remporter le premier tour, mais pas nécessairement le second du 5 juin prochain. En 2011, l'autre finaliste et actuel président Ollanta Humala l'avait emporté en insistant sur les points noirs du bilan d'Alberto Fujimori, en particulier le cas de ces milliers de femmes stérilisées de force. Visiblement, cette année, Keiko Fujimori a essayé de prendre les devants avec l'engagement suivant.
Je sais regarder l'histoire de mon pays. Je sais clairement quels chapitres doivent se répéter et ceux qui ne doivent pas l'être. Je m'engagerai à respecter sans réserve l'ordre démocratique et les droits de l'homme. Je respecterai les libertés de la presse et d'expression. Je serai drastique dans la lutte contre la corruption, dans le respect de l'indépendance des pouvoirs. Je n'utiliserai pas le pouvoir politique dans l'intérêt des membres de ma famille. J'approfondirai le travail de mémoire de la Commission de la vérité et de la réconciliation et j'indemniserai les victimes de la violence, en particulier les femmes stérilisées dans le cadre du programme de santé reproductive.
Un très très beau discours, dites-moi Eric, mais peut-on réellement faire confiance à la fille d'Alberto Fujimori ?
Alors, de nombreux opposants à Keiko Fujimori affirment, pour simplifier, qu'elle est manœuvrée par son père. Pour appuyer leur thèse, ils notent que l'ancien président reçoit facilement 300 personnes par mois dans sa prison, prison entre guillemets, hein. C'est une petite maison avec un jardin où il vit seul. Alors, il serait étonnant qu'il n'en profite pas pour donner son avis sur la campagne électorale. Cet avis est-il un ordre ou un conseil? J'ai posé la question au sociologue et politologue David Sulmont, qui dirige l'Institut d'opinion publique de l'Université catholique. Lui croit que Keiko est beaucoup plus que le clone de son père.
Moi, je crois qu'elle représente un néo-fujimoriste. Ce n'était pas peut-être le cas en 2006 ou en 2011. Mais là, maintenant, je crois que c'est elle qui a le pouvoir dans son parti. D'abord, elle est une politicienne jeune, donc elle a un futur politique. Elle, pas son père. En plus, le travail de monter de 25% à 30-35%, c'est elle qui l'a fait dans ces cinq dernières années. Et elle a donné des signes assez clairs de se distancer de son père en excluant certains... figure de la vieille garde du fujimoriste.
Exact. Donc la vieille garde fujimoriste dont nous parlait David Sulmont, analyse plutôt optimiste sur l'avenir politique de Keiko Fujimori, mais est-ce qu'elle est parvenue à convaincre les Péruviens pendant cette campagne, Eric Sanson?
Alors selon les derniers sondages, il y a un vote anti-Fujimori qui est en baisse, mais qui représente encore de 40 à 45% des électeurs, ce qui est beaucoup, des personnes comme Gloria Cano, la secrétaire exécutive de l'association Pro-Droits de l'Homme du Pérou.
Il y a un manque de mémoire collective, une manipulation de l'histoire. Le gouvernement d'Alberto Fujimori a été reconnu comme le 7e gouvernement le plus corrompu de l'histoire, mais ici il y a une interprétation différente. Beaucoup en parlent comme du gouvernement ayant eu le plus de succès.
Alors, des personnes comme Gloria Cano, comme les femmes stérilisées, de force ne seront jamais convaincus par Keiko Fujimori. En revanche, certains de ses opposants pourraient voter pour elle en fonction de la personnalité de qui il accompagnera au deuxième tour. Il y a actuellement une égalité entre l'ancien ministre libéral Pedro Pablo Kuczynski et la candidate de gauche qui monte, Veronica Mendoza. L'ancienne députée pour la région de Cusco est critiquée par de nombreux médias et les milieux d'affaires pour ses affinités réelles ou supposées avec le chavisme, avec le socialisme du 21e siècle. Si c'est elle qui passe, Keiko Fujimori risque de recevoir le vote de tous ceux qui n'apprécient pas le bilan de son père en termes de corruption ou de violation des droits de l'homme, mais qui ont encore plus peur d'un changement de modèle économique.
En direct de Lima, Eric Sanson, merci à vous. Eric, correspondant de Radio France au Pérou.
Et direction, Olivier, maintenant l'Égypte. Alors pas celle d'Abdel Fattah al-Sissi, mais l'Égypte ancienne, celle des mystérieux hiéroglyphes qui n'ont apparemment pas livré tous leurs secrets.
Eh bien apparemment non, même si la légendaire pierre de Rosette, superstar du British Museum, a certes permis à Champollion de déchiffrer une grande partie de ses écritures. Souvenez-vous, Michael, c'était en 1822. Elle renferme, ses écritures, encore aujourd'hui, bien des mystères. Christian Chéneau, bonsoir.
Bonsoir, Olivier.
Vous avez rencontré un chercheur, disons, surprenant, Renaud de Spence, qui lui aussi vient apporter sa pierre à l'édifice dans un livre, Leçons pour apprendre les hiéroglyphes égyptiens.
Oui Olivier, en exagérant un peu, on pourrait dire que Renaud de Spence est une sorte de Champollion du XXIe siècle. Son livre est le fruit de 15 ans de travail et de recherche. Alors, ce qui est original dans sa démarche, c'est que Renaud de Spence est à la fois sinologue et égyptologue. Ce qui est surprenant, c'est qu'il a trouvé des résonances entre les idéogrammes chinois et les hiéroglyphes. Il explique la singularité et la richesse de la langue des pharaons.
Notre alphabet à nous est dérivé de hiéroglyphes. Même l'écriture arabe, qui est extrêmement simplifiée, vient originalement de dessins. Le génie de l'écriture hiéroglyphique, c'est d'avoir développé très tôt un système alphabétique ou en tout cas phonétique, c'est-à-dire que vous avez des signes qui ne représentaient que des sons, tout en gardant un système idéographique, c'est-à-dire que vous combinez des signes qui vous donnent une idée du son avec une image qui vous donne une idée du sens, et en général un mot hiéroglyphique a tous ces signes à la fois.
Alors dans ce livre, Christian, une vraie nouveauté, c'est l'interprétation des couleurs.
Oui, Renaud de Spence a mis en valeur la dimension chromatique des hiéroglyphes. Il existe 6 couleurs de base qui représentent 3 pierres semi-précieuses, le rouge, cornaline, le bleu, lapis-lazuli, et le bleu, vert turquoise. Il y a ensuite 2 métaux, le jaune or et le blanc argent, et enfin le noir. Et toutes ces couleurs n'ont pas été appliquées au hasard sur les temples ou les tombeaux égyptiens, affirme Renaud de Spence.
Les hiéroglyphes égyptiens sont probablement la seule grande écriture de l'histoire dans laquelle il peut y avoir des couleurs. Hein, bien entendu, on pouvait écrire en noir, hein, mais dès qu'on était sur un mur de temple prestigieux, sur un tombe de la reine Néfertari, par exemple, qu'on veut mettre des couleurs, on ne les met pas n'importe comment. Vous mettez des couleurs aussi parce que c'est du luxe, parce que vous voulez faire joli, hein, il y a quand même une recherche artistique dedans. Eh bien, vous ne mettez pas des couleurs n'importe comment, parce que si vous les mettiez n'importe comment, vous pourriez vous tromper sur le sens. Donc, la couleur fait partie du sens.
C'est un livre qui se veut avant tout éducatif, hein, Christian, pour permettre au lecteur de lui-même déchiffrer les écritures sur les monuments.
Oui, c'est un ouvrage de vulgarisation, très facile d'accès. Une fois la dernière page tournée, le lecteur est capable de savoir de quoi parle une inscription courante et peut commencer à déchiffrer, par exemple, l'obélisque Place de la Concorde à Paris, ou mieux, s'envoler vers la Vallée des Rois et des Reines en Égypte.
Avec ces 15 leçons, je crois que vous pouvez savoir de quoi parle chaque texte. Et vous pouvez déchiffrer les textes les plus communs, qui ne sont pas forcément les plus compliqués. Comme les Égyptiens sont probablement la civilisation la plus bavarde en termes d'écriture, vous avez des formules qui reviennent tout le temps. Et donc, vous allez pouvoir identifier toutes ces formules les plus courantes au musée du Louvre ou en Égypte. Dans l'édition, je suis content d'avoir pu travailler ces 15 dernières années pour faire comme ça tous ces facsimilés et de les présenter un peu pour la première fois à l'étude.
Donc on attend un deuxième tome ?
Et on attend, oui, je vais m'atteler à un deuxième tome maintenant.
On va déjà essayer de se concentrer sur le premier. Hein. Merci à vous Christian Chesnois. On rappelle le titre du livre de Renaud de Spence, c'est tout simple, Leçons pour apprendre les hiéroglyphes égyptiens aux éditions Les Belles Lettres.
Un peu les hiéroglyphes pour les nuls quoi.
C'est un peu ça.
Merci Olivier Poujade.
France Inter, un jour dans le monde.
Alors, pas sûr que vous parveniez à reconnaître cette musique, en tout cas ces sons derrière nous, mais on vous emmène maintenant à Singapour, où vient de s'ouvrir une exposition inédite dans cette ville-état. Exposition autour de l'art moderne, co-réalisée par la nouvelle National Gallery de Singapour et le Centre Pompidou à Paris, car Beaubourg lorgne du côté de l'Asie. Bonsoir Isabelle Pasquier.
Bonsoir Michael.
Vous rentrez tout juste de Singapour, Isabelle, où vous avez donc assisté à l'inauguration de cette grande première.
Et je vous emmène donc au cœur de cette cité-état de Singapour, la Suisse de l'Asie, au milieu des buildings, des banques. La nouvelle National Gallery présente donc une exposition en collaboration avec le Centre Pompidou. À Singapour, le Centre Pompidou joue la première carte de sa stratégie de développement en Asie, car bientôt là-bas, il va faire des petits. Serge Lavigne est le président du Centre Pompidou.
Nous avons des projets tout à fait concrets, d'une part en Corée et d'autre part en Chine. La Corée, c'est Séoul et cela pourrait être dans l'année à venir, 2017, si tout va bien. La Chine, c'est Shanghai et donc nous pourrions y arriver l'année suivante.
Et ces centres Pompidou provisoires vont fonctionner sur le modèle de celui de Malaga, qui affiche 220 000 visiteurs en un an.
Pendant un certain nombre d'années, nous sommes là, nous sommes présents pour dialoguer avec la scène locale et proposer ce qui fait l'originalité du centre Pompidou, c'est-à-dire un ensemble pluridisciplinaire avec des expositions, avec des spectacles, avec des actions aussi en direction de la jeunesse, de l'éducation.
Mais alors pourquoi l'Asie ?
Ça peut être simplement conçu comme une question de rayonnement, comme l'on sait que désormais le centre névralgique du monde, en quelque sorte, se déplace. Donc il faut être présent en ces lieux. Et puis aussi, c'est vrai qu'il y a l'opportunité de nouvelles collaborations. C'est-à-dire qu'on a affaire à des scènes artistiques qui se construisent, qui se constituent. On a affaire à des classes moyennes qui se développent, à un public qui devient de plus en plus éduqué, qui se tourne de plus en plus vers l'art. Et ça peut être une très belle opportunité pour le Centre Pompidou de participer à ce mouvement.
Et voilà, Michael, vous l'avez compris, il s'agit aussi d'enrichir les collections du Centre Pompidou avec les nouveaux artistes de l'incontournable scène asiatique.
Alors ça, on le comprend, mais quel est l'intérêt de Singapour dans cette collaboration, Isabelle ?
Alors Singapour a besoin d'une vie culturelle pour asseoir son statut d'État et c'est le coffre-fort de l'Asie, une zone franche, des sociétés offshore, un port franc, un régime politique autoritaire qui assure une totale sécurité à la finance. Et l'art aujourd'hui, vous le savez, fait partie des investissements les plus recherchés. C'est un Suisse qui nous explique tous ses rouages. Il s'appelle Lorenzo Rudolph. C'est lui qui a créé ArtStage. C'est la foire d'art contemporain de Singapour.
Le 21e siècle, c'est le siècle de l'Asie. Les scènes artistiques commencent à être là. Avec les scènes artistiques, vous avez de plus en plus aussi des collectionneurs, etc. C'est vraiment une chose qui se bouge. rouge. Singapour, c'est une place qui veut vraiment faire tout pour devenir un centre de l'art contemporain. Et Singapour, c'est vraiment la seule place en toute Asie qui est multiculturelle. Et si on regarde la scène artistique qui est là, le collectionnisme qui est là, c'est incroyable. Et pour ça, ici, Singapour a vraiment toutes les grandes chances.
Et Singapour a vraiment encore d'autres belles cartes dans son jeu.
Le marché de l'art, c'est là où il y a de l'argent et c'est là où il y a des taxes qui ne sont pas trop grands. C'est New York, c'est Londres, c'est la Suisse, c'est Dubaï, c'est Hong Kong, c'est Singapour, toutes des places financières. Et Singapour, c'est le centre du private banking de l'Asie. C'est comme la Suisse, c'est là où sont les fortunes privées. Même de la Chine. Le Chinois, où va-t-il mettre sa fortune privée? Pas en Chine. Il l'apporte dehors la Chine, c'est-à-dire Singapour. Et c'est ça, les fortunes qui vont dans le marché de l'art. Et pour ça, je crois que Singapour a vraiment, vraiment des bonnes cartes.
L'art et le monde de la finance, un mariage qui ne craint pas le divorce. C'est donc un milliardaire collectionneur de Singapour qui nous le confirme. C'est monsieur Edmund Cheng. Il pèse plusieurs milliards de dollars.
Je pense que l'art nous permet d'être plus créatifs, plus innovants. L'art est vraiment un ingrédient essentiel pour l'innovation. L'art ne sert pas seulement à l'art, il sert au business.
Voilà, Isabelle Pasquier, merci beaucoup pour cette balade à Singapour. Aussi donc, vous passez là-bas, exposition du Centre Pompidou avec la National Gallery. C'est jusqu'au 17 juillet prochain.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
Et à pile 18h55, l'heure de l'édito est vendredi, c'est Anthony.
Bonjour, bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Sauf que moi c'est Mickaël. Bonsoir Anthony Bélanger.
J'ai tellement l'habitude.
Et vous nous emmenez Anthony d'abord en Colombie, la Colombie qui vient tout juste de dire oui au mariage gay.
Mickaël, donc la nouvelle est tombée tard hier soir. Et oui, la Cour constitutionnelle colombienne approuvait par un vote historique, 6-3, le mariage gay au nom bien sûr de l'égalité de tous devant la loi. La Colombie devient donc le 4e pays d'Amérique latine à offrir la possibilité aux couples de même sexe de se marier sans restriction. Les 3 autres pays étant le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine. Dans le monde, 23 pays aujourd'hui offrent désormais cette possibilité. Il y a cependant une histoire très colombienne à raconter sur ce jugement historique de la Cour constitutionnelle du pays. Elle commence cette histoire par une question toute bête. Pourquoi revient-il à la Cour, et non au Parlement, d'avoir pris cette décision? Eh bien tout bêtement, parce que le Parlement a été jusqu'alors incapable de légiférer. Les réticences catholiques ont été trop fortes, et pour y parvenir, et surtout pour parvenir à un texte pour tous. La Cour constitutionnelle, furieuse, a donc été presque obligée de se substituer au Parlement pour dire le droit.
Mais sans loi, les couples gays pourront-ils tout de même convoler, Anthony?
Alors, en pratique, oui. En Colombie, comme dans beaucoup de pays du monde, vous savez, ce sont les juges et les notaires qui valident les mariages. Avec cette décision de la Cour, la sécurité juridique est assurée. Il suffira de bien choisir son notaire pour se marier. Mais c'est vrai qu'il manque tout de même une grande loi d'égalité pour tous. Ça viendra. En fait, chacun des 23 pays qui ont adopté le mariage gay l'ont fait avec leur tradition juridique et politique propre. La Colombie, par exemple, a suivi l'exemple américain. Aux États-Unis aussi, c'est la Cour suprême qui a imposé le mariage gay à l'ensemble de l'Union. Mais on a vu aussi des référendums, hein, comme en Irlande, en Suède par exemple. Et c'est d'ailleurs un cas unique au monde. L'Église luthérienne est tenue par la loi de célébrer des mariages gays, des mariages religieux, tout simplement parce que comme c'est une Église d'État, elle est considérée comme une administration à part entière qui doit donc appliquer la loi pour tous. Concrètement, ça veut dire que l'Église luthérienne doit fournir en toutes circonstances un pasteur volontaire qui accepte de bénir les mariés.
Sauf que les résistances sont encore très nombreuses, hein.
Y compris dans le pays où le mariage, dans les pays où les mariages gays est désormais la loi, je pense évidemment aux États-Unis, bien sûr, où les opposants au mariage gay utilisent tous les moyens à leur disposition pour compliquer la vie des couples gays. Ça passe par la multiplication de formulaires B112, B113, B114, tout ça à aller chercher aux quatre coins de l'État, et qu'il faut remplir scrupuleusement parce que, Mickaël, vous connaissez l'adage, hein, quand ça dépend, eh bien ça dépasse. Et puis, mais il y a pire, figurez-vous, cette semaine, par exemple, il y a le Mississippi qui a adopté une loi permettant aux commerçants de refuser leur service aux couples gays en invoquant des convictions religieuses. La Caroline du Nord aussi a fait de même. L'Indiana avait il y a un an adopté ce type de législation au point aujourd'hui de s'en mordre les doigts. Une dizaine de salons commerciaux ont été annulés en guise de rétorsion, les entreprises gay-friendly refusant de s'exposer à Indianapolis. Mais d'une façon générale, ce sont des combats d'arrière-garde que le temps finit par défaire. En Europe, nous avons même assez de recul pour l'affirmer. Les premiers mariages gays de l'histoire ont été célébrés aux Pays-Bas il y a exactement 15 ans, c'était le 1er avril 2001. À l'époque, eh bien, une petite moitié des Néerlandais y étaient favorables. Aujourd'hui, ils sont 84% à approuver le mariage gay. Et partout en Europe, le processus est le même. D'abord, une mobilisation très forte, très bruyante des opposants, une opinion qui doute, puis l'adoption de la loi. Enfin, année après année, au fur et à mesure que les mariages sont célébrés et que les époux homosexuels et leurs enfants eh bien, s'insèrent dans la société, la population approuve chaque année plus massivement, ce qui est devenu une évidence pour tous.
Anthony Bélanger, merci. Rassurez-vous, Nicolas Demand, on va très vite revenir, Anthony. Et bonsoir Mathieu Aron.
Bonsoir Mickaël.
Dans une vingtaine de minutes, secret d'info sur le trading à haute fréquence.
Et oui, après une semaine de multiples révélations sur les comptes offshore, nous aussi on va se plonger dans les arcanes de la finance mondiale qui est gouvernée aujourd'hui par des robots, par des algorithmes devenus tellement puissants, tellement rapides que plus personne ne les maîtrise. Et à notre micro, l'autorité des marchés financiers avoue son impuissance.
À tout à l'heure, Mathieu Aron, dans une poignée de secondes, le journal de 19h.